Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 28 septembre 2022. Alors, je ne sais pas si j'ai mis la doudoune, le capuchon pour me protéger des marchés qui tombent ou simplement pour me préparer au fait qu'il va faire très très froid cet hiver et qu'il fait déjà très très froid aujourd'hui. Donc, on a bien fait la transition entre la canicule et un automne tout pourri, tout pluvieux et dégueulasse. Et c'est un tout petit peu à l'image des marchés financiers aujourd'hui, puisque finalement, eh bien, encore une fois, hier matin, j'avais fait part d'un semblant d'optimisme et d'un semblant d'espoir et de retour d'y croire un tout petit peu à très court terme. Et puis finalement, hier, on s'est repris une claque. Et ce matin, quand on regarde les futurs ce matin, eh bien, on n'a pas l'impression que l'éventuelle possibilité d'un double bottom sur le S&P 500, comme je l'ai vu beaucoup, certains, pas mal de personnes le mentionner sur la page Facebook de Swissquote hier, eh bien, le double bottom, il est sacrément mal embarqué sur le S&P 500. Et puis, si on regarde un tout petit peu en anticipant ce qui s'est passé sur les marchés européens, eh bien, c'est pas beaucoup mieux. Puisque finalement, si on fait le bilan, sauf erreur, en France, par exemple, eh bien, le CAC 40 est en baisse 10 séances sur 11 ces derniers jours. Voilà, donc en gros, l'ambiance, elle est froide, glaciale et pratiquement déjà hivernale, surtout qu'on a bientôt plus de glace. Alors, je vous le rassure, il y a quand même encore un petit peu de chauffage ici dans mon studio, donc ça va, c'est quand même supportable, mais c'est vrai que l'ambiance est assez morose, pour ne pas dire pas très rose, ce matin, puisque finalement, encore une fois, eh bien, on a repris en pleine figure le fait que ça n'allait pas. Alors, c'est pas que c'est une énorme surprise, puisqu'on sait, on le dit, on le répète depuis quelque temps, qu'il y a plein de problèmes et peu de bonnes choses. La seule bonne nouvelle finalement qu'on a eue hier, c'était la confiance du consommateur. La confiance du consommateur est sortie à 108 contre 103.6 le mois dernier. Alors je vous avoue que je ne comprends pas bien où c'est qu'on est allé chercher ces gens qui sont optimistes et qui ont confiance pour consommer ces prochains mois, parce que là franchement, ça a pas l'air super. Alors il paraît que le niveau élevé de confiance du consommateur revient au fait de parce que le pétrole est en train de baisser et parce que finalement c'est assez facile de trouver un boulot. C'est ce qui leur suffit pour être confiant sur l'avenir. Il faut quand même noter que si le pétrole baisse aujourd'hui, c'est qu'on est en train de penser, de parier sur le fait qu'on va avoir une récession. C'est pas juste qu'il y a moins de demandes, c'est qu'on est en train d'anticiper une récession à venir. Mais enfin, pour l'instant, la confiance du consommateur est bonne. Le seul problème, c'est que si la confiance du consommateur est bonne, eh bien, ça veut dire qu'on va encore nous monter les taux. Et la hausse des taux est un des centres d'action de la journée d'hier, puisqu'on a eu droit à l'intervention de Monsieur Bullard, Monsieur Jim Bullard. Alors, pour ceux qui le connaissent pas, hein, Jim Bullard, c'est le mec le plus haut quiche que l'on puisse trouver dans le monde de la Fed. C'est un banquier central, c'est un membre de la Fed. Il vote à chaque hausse des taux. Et c'est le plus faucon de tous, le plus haut quiche de tous. Par contre, il y a aussi un footballeur qui s'appelle Jimmy Bullard qui a joué dans les années 2000, mais ça n'a rien à voir. Notez qu'on aurait peut-être préféré que ce soit lui qui parle hier plutôt que le Jimmy Bullard de la Fed. Donc, Monsieur Bullard de la Fed a répété quoi? Bah, il a répété la même chose que l'on sait déjà. Il a répété, comme l'a dit Monsieur Powell à Jackson Hole. Il a répété, comme l'a dit Monsieur Powell après Jackson Hole. Il a répété, comme a dit Monsieur Powell après le FOMC meeting de la semaine dernière. Les taux vont continuer à monter et ils vont rester élevés pour un bon moment. Il a dit exactement la même chose. Même les targets, hein. Puis il a une vision des taux d'intérêt à des Fed Funds à 4,5%. Donc c'est exactement ce que la Fed a dit la semaine dernière. Mais, nous, on est encore des grands enfants, hein. Quand on nous répète les choses encore et encore, on a tendance à mieux comprendre au bout de la cinquième fois, hein. Donc là encore, on nous a dit que les taux allaient continuer à monter, que probablement, on serait à 4,5% pour la fin de l'année. Enfin bref, c'est plutôt le même discours. C'est plutôt un discours super au quiche. Évidemment, il fallait pas s'attendre à autre chose, mais le marché, il l'a pris comme ça, hein. Et puis donc, du coup, bah, les futurs qui étaient bien disposés, le marché qui était bien disposé hier, l'optimisme latent dans lequel nous étions hier matin, eh bien, il s'est évaporé comme neige au soleil et il s'est évaporé comme le gaz du pipeline Nord Stream 2. Oui, parce que ça, c'est l'autre sujet du jour, hein. Vous avez vu que Nord Stream 1, on nous a fermé le robinet. Et Nord Stream 2, eh bien, on était nous percer le tuyau au fond de la mer au large du Danemark, donc apparemment c'est pas un accident, semblerait-il, après plusieurs explosions successives au fond de la mer, sachant qu'il faut quand même descendre à plus de 100 mètres de profondeur pour toucher le pipeline, on suppose que c'est pas un accident, et on suppose que ça pourrait être un pays étranger qui aurait attaqué ce pipeline. Donc, Non seulement on n'avait plus beaucoup de gaz qui venait de la plage du Nord Stream 1, le Nord Stream 2 c'est foutu, donc en gros il va falloir apprendre à vivre sans le gaz russe pour cet hiver. C'est pas qu'on ait une monstre surprise là-dedans, mais regardez le comportement des futurs sur le gaz qui s'affiche à l'instant à vos écrans, eh bien 20% de hausse hier sur la nouvelle d'explosion au milieu de la mer, donc globalement ça va super bien. C'est encore une très très bonne nouvelle qui est super rassurante pour l'hiver à venir, oui, parce qu'on s'est aussi rendu compte hier que après le mois de septembre, il y a le mois d'octobre, il y a le changement d'heure, et puis après c'est novembre-décembre, et en général en décembre, dans nos régions, il fait un tout petit peu plus froid qu'au mois d'août. Donc voilà, j'aimerais bien vous raconter des autres histoires que tout ça, mais finalement c'est ce qu'on vit dans le marché pour l'instant. Hein. On est toujours dans le doute, on a toujours pas mal de mauvaises nouvelles, et techniquement, je veux bien me raccrocher à tout ce que vous voulez, mais pour l'instant c'est très très moche. Hier, le Dow Jones était rentré en bear market, maintenant bah, il continue à descendre, le S&P 500 est à des niveaux où on est au plus bas depuis 2 ans. Tout le monde regarde les 3585 qui correspondent à la moyenne des 200 semaines, on en a déjà parlé hier, et puis une fois qu'on aura cassé la moyenne des 200 semaines, eh bien, ce sera la porte ouverte à toutes les fenêtres, parce que tout le monde va commencer à faire des calculs, de dire, on est en train d'anticiper la récession, ok, mais quel type de récession? Une gentille ou une méchante? Et ça, du coup, ça pourra nous ramener à des targets beaucoup, beaucoup plus bas. Donc en gros, le syndrome bearish est toujours extrêmement présent dans les marchés. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire « Ouais, c'est super, on n'a que des choses bien, bien qui nous attendent demain ». Évidemment, c'est pas ça. En plus de ça, vous avez quand même donc ces tensions au niveau du gaz. Vous avez également quand même la Russie qui n'arrête pas de dire à peu près toutes les 4 heures qu'ils ont le droit d'utiliser les armes nucléaires s'ils ont envie. Et puis à côté de tout ça, eh bien vous avez tout ce qui est obligataire qui est en train de partir à la hausse. Les rendements obligataires sont en train de partir à la hausse. On est en train de vivre un crash obligataire assez spectaculaire. Parce que quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui sur l'Italie, eh bien, ça fait un tout petit peu peur. Alors, je parle pas au niveau politique, parce que je me suis fait allumer hier, parce que j'ai parlé de gouvernement d'extrême droite. Excusez-moi, je suis pas un spécialiste, mais on va dire, la partie droite de la politique italienne qui prend le pouvoir n'a pas rassuré tout le monde, puisque finalement, le rendement du 10 ans italien est monté à 4/3, hein. Donc, c'est monté quand même très très vite sur la nouvelle. Après, à tort ou à raison, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, ça donne quand même un sentiment de malaise par rapport, à l'économie italienne. Et puis de l'autre côté, on a aussi l'économie anglaise qui fait très très peur, très très peur, parce que d'abord le pound ne rebondit pas la moindre, mais qu'en plus à côté de ça, vous avez le 10 ans anglais qui est en train de partir au ciel, puisqu'on est également en train d'aller en direction des 4,5% de rendement. C'est des niveaux qu'on n'a jamais vus depuis la crise de 2011, la crise de la dette à l'époque de la crise de la dette grecque. C'est complètement hallucinant. Faut pas non plus oublier qu'au mois d'août, cette année, donc il y a 2 mois en arrière, le rendement du 10 ans britannique était à 1,75. D'ailleurs, à propos du rendement de la dette et à propos de ce qui se passe en Angleterre par rapport à ce nouveau budget, cette nouvelle stratégie mise en place par la nouvelle dame de fer, eh bien, il y a aussi le FMI qui est en train d'intervenir pour dire bah, attendez, vous pouvez pas faire ça comme ça, il faut quand même essayer de trouver une autre solution. Donc du coup on voit que même les instances, on va dire mondiales, le Fonds Monétaire International est en train d'intervenir quand le FMI intervient sur un truc pareil qui est supposé être de l'ordre de la souveraineté nationale. Eh bien on peut quand même se poser des questions sur le stress dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc il n'y a pas grand chose qui va bien ce matin. On voit aussi sur les marchés asiatiques que finalement les gens n'ont pas du tout apprécié le virage à 180 degrés qu'a fait Wall Street hier. Je rappelle, les futurs fortement en hausse hier matin, on finit en baisse, les marchés européens au plus bas des plus bas des plus bas depuis bien longtemps. Et puis ben du coup, ben, les Asiatiques, quand ils ont fermé les marchés hier, on était plutôt optimiste. Donc ce matin, ils arrivent, on a les futurs qui sont en baisse de 0,6%, l'ambiance qui est plutôt pessimiste, donc eux, ils rattrapent leur retard. Et vous avez des bonnes sons à de plus de 2% à Tokyo et à Hong Kong qui font très très peur à tout le monde, et ce qui fait qu'on a l'air de se diriger de nouveau sur une journée un petit peu désagréable. Donc si on fait un peu l'effet de ce qu'on a vécu hier, peut-être que comme hier on a ouvert très fort pour finir très faible, peut-être que ce matin on va ouvrir très faible pour finir très fort. Qui sait? En tous les cas, aujourd'hui, on a toujours beaucoup, beaucoup de volatilité. Et puis, on voit vraiment qu'on n'a aucune idée d'où est-ce qu'on veut aller. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que le mot-clé, c'est surtout, surtout, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La seule chose qui me rassure, En ce qui me concerne, c'est que dans quelques jours, dans quelques semaines, eh bien, on va avoir les publications des résultats trimestriels. Ça nous permettra peut-être pendant un bref instant de nous concentrer sur autre chose que la géopolitique et la macro, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est vraiment obsédé par ça, on ne parle plus que de ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement compliqué à maîtriser aujourd'hui, surtout qu'on est vraiment dans une période qu'on n'a jamais vue. Enfin, moi, ça fait 35 ans que je suis dans ce métier, j'ai jamais vu un merdier pareil, excusez-moi du terme, mais sur ce qui se passe au niveau géopolitique, au niveau macro, au niveau militaire, etc., etc., et plus le côté économique qui est en train de partir en sucette. Donc tout ça mis ensemble, ça nous fait quand même quelque chose d'assez explosif, et de se dire qu'à un moment donné, bah, il faudra bien qu'on arrive à trier le bon grain de livret et à trouver le bon chemin. Mais pour l'instant, c'est pas simple, et c'est vrai que chaque jour, il y a un nouveau truc qui nous tombe dessus, et puis en plus, on l'a vu hier, les bonnes nouvelles ne sont pas des bonnes nouvelles, sont des mauvaises nouvelles. Et puis là-dessus, si on vous répète ce qu'on vous a déjà dit 15 fois depuis 2 mois, eh bien le marché le prend de nouveau comme si c'était tout neuf et qu'on n'était pas au courant de la chose. Donc du coup, on est vraiment dans une période assez tendue. Alors on entend dire à droite à gauche que les gens sont en train d'essayer de racheter sur faiblesse, mais c'est pas flagrant. D'ailleurs, depuis le début de l'année, il faudra quand même noter que les capitalisations boursières mondiales ont quand même nettoyé plus de 13 000 milliards de dollars. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent qui a disparu, qui s'est vaporisé un petit peu partout sur la planète, qui a complètement disparu et que finalement maintenant on se pose beaucoup de questions sur la suite des événements. Et quand vous regardez la performance de tous les secteurs, eh bien il n'y a pas eu de prisonniers, tous les secteurs se sont fait déglinguer bien évidemment. Alors aujourd'hui on entend que les gens sont en train de sortir des cycliques pour aller se positionner sur les défensives, hein. Tout le monde ne parle plus que de titres qui payent des dividendes parce que c'est la seule chose qui nous intéresse. Et puis pour l'instant, eh bien, on regarde les marchés baisser et il n'y a plus vraiment de stock picking pour le moment. Donc j'espère simplement que dans 2 semaines, quand les publications trimestrielles vont arriver, on pourra commencer à refaire un tout petit peu de stock picking. Ça pourrait être un tout petit peu plus rigolo que pour l'instant. Je vous parlais l'autre jour de Tesla à la baisse, elle est revenue en bas du range. Donc quelque part, si les marchés repartent pas trop mal ces prochains temps, je vois pas pourquoi ils se retourneraient dans l'immédiat, mais c'est clair qu'on a, si ça devait repartir un petit peu à la hausse, à surveiller Tesla pour un rebond aussi, parce qu'on voit que pour l'instant elle marche relativement bien dans son range. Mais pour le reste, franchement, eh bien, on va continuer à se mettre en position brace, 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 comme en cas d'atterrissage d'urgence avec un avion. Et puis, si vraiment ça va pas, on pourra toujours se mettre en position de PLS plus tard. Voilà, donc désolé de vous raconter que des histoires moroses et déprimantes en ce moment. Je dois dire qu'on a plutôt tendance à vivre sous Xanax qu'autre chose. Donc on espère que cette fois, on va nous inverser la journée d'hier. Ça nous fera peut-être un peu de bien. Mais c'est vrai que quand on regarde la photo globale, eh bien, il n'y a pas de quoi se réjouir. Et puis en plus, j'ai mis le nez dehors tout à l'heure, eh bien, il pleut. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. On approche gentiment des 25 000. Ça m'arrange d'ailleurs parce que je ne sais plus quoi faire de mes cheveux. Et puis, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, j'espère vous retrouver demain matin au même endroit, à la même heure, avec des nouvelles un tout petit peu plus réjouissantes et une ambiance un petit peu plus rose que morose. Passez une très bonne journée et à demain. Bye bye.